À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir. Le podcast.
Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi avec une image d'Épinal de l'agriculture française.
Les villages et leurs clochers, entourés de champs. Les vaches bien grasses dans les prairies, les moissonneuses batteuses du bassin parisien, la France, patrie éternelle des vins, des fromages et des fruits et légumes en tout genre. Temple de la gastronomie et des produits du terroir, pays béni où un climat tempéré permet l'abondance agricole et les plaisirs de la table.
Oui, mais... Oui, mais cette abondance a été rendue possible par la mécanisation, l'industrialisation, la technicisation des pratiques agricoles et par la constitution d'une chaîne logistique faite de plateformes, de coopératives, de centrales de distribution. Ni vous ni moi n'allons chercher notre lait à la ferme du bout de la rue ou nos tomates chez le voisin. Loin de l'image d'Épinal, donc, notre alimentation du XXIe siècle est assurée par un système agro-industriel performant, complexe et aujourd'hui accusé de détruire l'environnement à coups d'intrants chimiques et de pratiques appauvrissant les sols. Nos prix bas, claironnés par les supermarchés, n'assurent pas une rémunération décente aux producteurs. Et on fait mine de découvrir, avec la crise énergétique, que toute la chaîne de valeur agricole est particulièrement exposée aux défis soulevés par le changement climatique. Pour essayer de défricher le sujet, j'ai rejoint à Toulouse mon ami Florent Gull, directeur des services du ministère de l'Agriculture en région Occitanie. Ancien patron de l'agence bio, il connaît particulièrement bien l'ampleur des enjeux liés à la transformation du système agro-industriel en système agro-écologique. Alors dis-moi Florent, comment se nourrir aujourd'hui sans détruire l'environnement ?
Alors sur l'impact carbone, puisqu'on souhaiterait à la fois au niveau de l'État, au niveau du monde agricole, mais aussi des distributeurs et des fabricants de produits, pouvoir étiqueter des produits en fonction de leur impact carbone. C'est très attendu par les consommateurs, en tout cas par une partie d'entre eux, qui permettrait de synthétiser toute une série d'informations sur le mode de production, est-ce qu'on est en bio, est-ce qu'on n'est pas en bio, et est-ce qu'on a fait beaucoup de kilomètres ou pas. Donc c'est déjà intéressant de dire... Quel est l'impact qui a eu lieu sur le mode de production. Donc, typiquement, si on prend quelques exemples qui sont connus, quand on est amené à déforester des forêts primaires en Amazonie, en Indonésie, etc., parce que on va produire d'un côté de l'huile de palme, de l'autre du soja en grande quantité. Si on ouvrait les livres de tout ça, on saurait sans doute montrer que le mode de production est catastrophique pour l'environnement et donc ça règle le sujet assez vite. La deuxième question, c'est l'impact du transport. Là, c'est tout de suite plus compliqué. On l'a vu dans tous les modèles qui essayent de tenir compte du transport, puisque de fait, on sait que le transport au niveau international est évidemment le sujet numéro un de la pollution aujourd'hui. La question, c'est quelles quantités sont transportées et comment. Parce qu'effectivement, si on fait un transport... Même sur quelques dizaines ou centaines de kilomètres pour un tout petit volume, on va avoir évidemment rapporté au kilo final consommé par le consommateur un impact beaucoup plus fort que si on va chercher des tonnes de produits en bateau au bout du monde.
Intéressant. Ça me rappelle les propos d'Aurélien Bigot sur la mauvaise tendance des livraisons à domicile. Plus les quantités transportées sont réduites, individualisées, moins elles sont optimisées en termes de coût carbone. Dit autrement, un 36 tonnes chargé de tomates roulant 500 km vers Rungis aura un impact carbone par kilo de tomates moins fort que si 3600 individus prennent leur voiture pour faire entre 5 et 15 km aller-retour afin de se rendre chez le producteur acheter le 10 kg de tomates. Or, en France, 7 communes sur 10, rassemblant environ 10 millions d'habitants, ne disposent plus d'aucun commerce d'alimentation générale. Résultat, les déplacements des consommateurs pour leurs achats alimentaires sont réalisés à 90% en voiture et s'élèvent en moyenne à plus de 60 km par semaine pour un foyer de 3 personnes. Ce n'est donc pas seulement de l'empreinte carbone des produits agricoles qu'il faut se soucier, mais bien de celle de toute la chaîne de valeur agroalimentaire, y compris celle du consommateur final lorsqu'il fait ses courses.
Une fois qu'on a dit ça, ça casse malheureusement l'idée qui était, qu'on avait en réflexe en disant ben, « je trace un cercle autour de chez moi, alors de 50, 100, 300, 500 km, puis je me dis que si j'achète dans ce cercle-là, c'est forcément vertueux ben, ». Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Ça peut même être vraiment contre-intuitif. Et surtout, il y a, là aussi, l'ADEME l'avait montré dans une étude qui avait été un peu contestée par les partisans des circuits courts en disant, en fait, on se rend compte que si la logistique n'est pas optimisée, un circuit court peut être une vraie catastrophe ramenée encore une fois au kilo de produit. Les haricots verts du Kenya, s'ils sont ramenés en bateau, ils peuvent être beaucoup moins polluants. Après, de toute façon, ils vont être ramenés en bateau à un port français ou européen. La question souvent qui va se poser, c'est la fin du parcours aussi, parce que c'est aller dire à l'inverse qu'un produit qui vient du bout du monde serait vertueux parce qu'il serait, par construction économique, de toute façon transporté dans des grands conteneurs et donc aurait un impact ramené au kilo très faible. Et fausse aussi parce que ça, les consommateurs, ils vont pas à Rotterdam chercher leur. Et puis s'ils y allaient, il faudrait qu'ils y aillent à vélo, le cas échéant. Donc depuis Toulouse, ça fait un peu loin, par exemple. Il y a quand même une question qui est beaucoup le dernier kilomètre, on le sait. Et la question de la logistique, elle est vraiment très importante puisque de fait, aujourd'hui, on a quand même un fonctionnement donc par ces grands ports en particulier qu'on a la revue mis en lumière pendant la période Covid. Hein. On a vu qu'on dépendait sur tous les secteurs, mais en particulier sur l'alimentation, évidemment, ces transports internationaux. Et puis qu'après, on a installé des logistiques qui sont plutôt intéressantes, avec des marchés de gros, avec des centrales d'achat regroupées au niveau européen, etc. Avec une nécessité parfois de réexaminer la pertinence du circuit, non plus uniquement à l'aune d'une organisation économique pertinente, mais à l'aune aussi d'une organisation carbone, finalement.
J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Ce qu'évoque Florent ici, c'est la dimension logistique du système agroalimentaire. Il y a le transport international des produits agricoles, principalement par bateau. Il y a l'acheminement depuis les ports vers les marchés de gros, comme celui de Rungis. Il y a l'approvisionnement des entreprises agroalimentaires, qui sont un peu plus de 300 en France. Et puis des centrales d'achat, qui servent la grande distribution. Puis il y a les livraisons dans les supermarchés, qui fonctionnent en flux tendu et n'ont pratiquement aucun stock. Et tout au bout, il y a les 67 millions de consommateurs qui font leurs courses, très souvent en voiture. Au total, ce qu'on appelle l'aval de la chaîne, la transformation, la distribution, la consommation, représente un tiers de l'empreinte carbone totale du système alimentaire. D'après une étude de l'association Les Greniers d'Abondance, la quasi-totalité des marchandises agricoles produites dans un département est envoyée ailleurs, et la quasi-totalité des aliments qui y sont consommés viennent eux aussi d'autres régions, de France ou du monde. Autrement dit, baisser significativement l'empreinte carbone du secteur agroalimentaire implique de revoir entièrement ce mouvement des productions et des aliments. Ce qui voudrait sans doute dire, d'une part, taxer les produits en fonction des kilomètres qu'ils ont parcourus, et d'autre part, baisser les besoins en transport des distributeurs en augmentant leur stock de produits. J'ai bon ?
On voit que l'enjeu de la taxe carbone, dans le domaine agricole alimentaire, elle est très très présente. Mmh. On est quand même arrivé de plus en plus aujourd'hui, on le voit bien, sur une alimentation, en tout cas sur les chaînes, on va dire, de grande distribution, qui est vraiment sans stockage. Quoi.
Oui, enfin,
on fait du temps réel. Ouais. Je me rappelle d'un épisode il y a quelques années à Paris, de coups de gel pendant quelques jours, où la préfecture, je ne sais plus si c'était sur Paris ou sur l'ensemble de l'Île-de-France, en tout cas des camions ne pouvaient plus circuler.
Oui,
et les supermarchés étaient vides, même les supermarchés de centre-ville. Il restait des petits magasins bio où il y avait du coup un monde de fous dans des magasins où d'habitude il n'y avait personne, parce qu'ils se faisaient livrer par des beaucoup plus petits camions et que du coup ils continuaient à être alimentés.
Oui,
c'est ce qu'on a connu aussi pendant le premier confinement où tout d'un coup on a dit tiens, les gens consomment beaucoup plus de produits bio. Et c'était en partie dû au fait qu'on se rappelle tous de la farine, hein, parce qu'il n'y avait pas que le papier hygiénique qui manquait, il y avait de la farine. Mais tout d'un coup, il n'y avait plus de farine dans les supermarchés et il en restait beaucoup dans des magasins bio qui avaient moins optimisé leur chaîne de logistique pour diverses raisons, mais notamment un travail plutôt en direct avec des producteurs, donc pouvant moins, en n'inversant pas la logique qui est aujourd'hui le cas, c'est-à-dire que c'est le distributeur qui donne un peu son timing, ses coûts, enfin, etc. Dans un certain nombre de circuits plus courts, c'est plutôt dans l'autre sens. On demande aux producteurs quelle est leur saisonnalité, leur volume de production, et c'est ça qu'on met en rayon.
Voilà un autre aspect critique de notre modèle alimentaire. Dans le système agro-industriel, c'est la demande des transformateurs et des distributeurs qui organise l'offre des producteurs. Les fabricants et les supermarchés imposent aux agriculteurs de fournir le nécessaire pour les produits qu'ils souhaitent mettre en rayon. S'ils réclament des tomates en décembre, les agriculteurs doivent se débrouiller pour les produire, même sous serre et même sans goût. À l'inverse, dans les circuits courts, c'est le producteur qui dit « voilà ce que je peux fournir en ce moment » et les points de distribution qui s'adaptent. Curieusement, on y trouve bien plus de rutabagas panées en hiver que de tomates et d'avocats. Vous me voyez venir, pour transformer en profondeur le système agricole d'aujourd'hui, il va falloir renoncer à disposer de tout type de produits, n'importe quand, et réintégrer la saisonnalité des productions dans les logiques industrielles et dans les habitudes des consommateurs.
L'enjeu, c'est plutôt de rediscuter avec tout un chacun sur c'est quoi un produit de saison, qu'est-ce que ça veut dire un produit de saison, et surtout, quel intérêt ça a à la fois pour le consommateur et puis quelque part aussi pour le producteur. Je prends par exemple l'automne 2022, on a eu de la production de tomates de qualité en France jusqu'à des durées mais qu'on n'avait jamais connues. Donc ça veut dire qu'un consommateur qui d'habitude se dit « bon j'ai fini par bien apprendre que passé septembre c'était pas très raisonnable de manger des tomates parce que voilà, il fallait arrêter les salades de tomates, de toute façon ça tombe bien, il fait plus très beau ». Là il faisait encore très beau et très doux. Mais là, ça voulait dire aussi qu'effectivement, on pouvait, on devait, entre guillemets, aller voir vers ces agriculteurs qui proposaient des tomates de grande qualité, super goûteuses et pas très chères, parce que la production était en quantité.
Franchement, en tant que consommatrice, je suis complètement déboussolée. Des tomates en octobre ? Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Bon, plus sérieusement, les consommateurs peuvent-ils réellement avoir de l'influence sur le système qui les nourrit ? N'ont-ils pas intérêt à un statu quo qui certes n'est pas très brillant du point de vue des gaz à effet de serre, mais qui leur assure depuis des décennies une alimentation pas chère?
Et chez vous, c'est qui le moins cher?
Manger sain et bon marché. La plupart des grandes enseignes de la grande distribution en font en ce moment un argument publicitaire.
Chez Aldi, les fruits et les légumes sont livrés frais chaque jour et ça, toujours à prix Aldi.
Vu le prix, je savoure.
Pour vous, Intermarché propose le paquet de riz d'un kilo à seulement 81 centimes.
Lidl propose les 12 merguez fortes à 4,23€ les 660 grammes.
4,23€ les 12?
Ah oui!
L'ananas extra sweet catégorie 1 calibre A8 est à 99 centimes pièce.
99 centimes? Vivons mieux, vivons moins cher.
Voilà, je me dis pourquoi ils continuent à faire des pubs d'ailleurs, les supermarchés, chacun de leur côté, sachant qu'ils se font de la pub les uns pour les autres. Hein, je me dis, ils devraient juste peut-être faire des pubs pour juste les supermarchés. Hein, si vous aimez les parkings géants et les rayonnages pleins, venez dans des supermarchés. Et je pense que ce serait déjà pas mal.
Il y a vraiment l'idée, encore une fois, de dire que c'est pas de la faute des consommateurs. Par contre, on l'a vu, s'il y a une forme de pression qui est exercée par eux qui est intéressante. Il faut qu'elle soit un peu collective, mais il y a quand même beaucoup d'expériences depuis 10-20 ans aujourd'hui qui ont permis à des groupements de consommateurs de faire bouger les lignes, d'abord par ce qu'ils ont mis en place. Donc ça peut aller jusqu'à même des supermarchés coopératifs, il y a eu plein de choses. Et parce qu'une fois que ça a été mis en place, la grande distribution notamment se dit ben, « ça a l'air de bien fonctionner, peut-être que je peux essayer de m'en inspirer ». Et donc ça veut dire que quelque part, le consommateur, il est capable aussi de faire évoluer les choses, qui est, encore une fois, il est vraiment dans l'idée de ce que je dis, c'est pas de dire « si vous faites rien, vous êtes responsable », c'est au contraire de dire ben, « si vous voulez, ben, peut-être que vous pouvez faire bouger les choses ».
Des citoyens qui désirent créer une alternative à la grande distribution classique en proposant des produits de haute qualité à des prix intéressants.
La LOU, c'est ce qu'on appelle un supermarché coopératif et participatif.
Le tout dans une démarche respectueuse de l'environnement et de l'humain.
On n'a plus besoin de la grande distribution.
En contrepartie, ils ont choisi les produits, leurs fournisseurs locaux, un supermarché alternatif, une forme de militantisme.
L'idée de base, elle est toute simple. Chaque client, en plus de faire ses courses, donne un coup de main à l'organisation du magasin 3 heures par mois.
D'accord.
C'est tout nouveau pour vous ?
Ah, complètement nouveau. On n'a jamais fait de vente, j'ai jamais été caissière.
T'as peut-être joué à la marchande comme moi, mais ça fait 50 ans.
De passage en caisse, il y a la satisfaction d'acheter des produits choisis, de saison, de qualité.
Ça veut dire que les personnes qui font nos courses ici sont littéralement les copropriétaires et actionnaires du projet.
En France, depuis le 1er en 2016, une cinquantaine de supermarchés coopératifs ont ouvert ou sont en projet.
Ce jour-là, le fromager, c'est Philippe, mais ce n'est pas son véritable métier. Il est producteur de pommes et éleveur de brebis.
Le contact avec le producteur est devenu quelque chose d'important.
Pour tout le monde, c'est bénéfique, pour nous comme pour le consommateur. Et le consommateur sait comment son poulet a été élevé.
Effectivement, historiquement, dans chaque village, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Et puis même, on remonte encore un petit peu plus loin, l'agriculture était en ville. Ouais. Donc on avait besoin que la chaîne logistique au moins se termine près des consommateurs, voire même que la production elle-même soit systématiquement près des consommateurs. On a aujourd'hui des consommateurs qui ne voient plus les conditions de production et donc qui peuvent idéaliser une sorte de production qui n'aura aucun impact négatif. Or, moi, je pars toujours du principe que dans tous les secteurs, quand on produit, on abîme l'environnement. Et cette connexion, elle marche dans les deux sens, d'ailleurs, parce que je trouve ça toujours déroutant, et je l'ai connu, moi, étant issu du monde agricole. Quand j'étais gamin, j'allais en vacances chez mes oncles et tantes qui produisaient du lait, de me rendre compte qu'en fait, ils ne voyaient pas les gens qui consommaient leurs produits. Et qu'au bout d'un moment, ça leur faisait bizarre aussi de dire on apporte à la coopérative, comme ils disaient, puis derrière, que devient ce lait? On ne sait pas, mais plus sérieusement, c'est vrai que cette connexion-là, pour moi, c'est vraiment la clé de voûte.
Je suis d'accord avec Florent, on ne sait plus d'où vient ce qu'on mange.
Et toi, tu sais comment le font le lait, les vaches? C'est laquelle la vache qui fabrique la crème? Tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème?
Pour autant, je ne me vois pas aller chercher mon lait à la ferme tous les jours, la plus proche se situant au moins à une quinzaine de kilomètres de mon domicile francilien. De 1987 à 2019, la part des agriculteurs dans la population active est passée de 8% à 1,5%. Ils sont si peu nombreux aujourd'hui qu'ils me font un peu penser au village gaulois dans Astérix, assailli d'injonctions contradictoires. Faites moins cher, faites plus bio! Comment le vivent-ils?
Ils sont très, très mal à l'aise et ils se sentent un peu pris pour cible. Comme il y a vraiment une ambiance médiatique qui est assez problématique pour eux.
Pollueurs, assassins, voilà.
L'insulte, c'est une des facettes de l'agribashing.
Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un petit peu sensible. On va parler d'agribashing.
Des dégradations, des tags, mais surtout des vols de carburant.
Se faire insulter, de recevoir un bras d'honneur, c'est dévalorisant. On en a marre.
Alors on commence par la définition le plus simple de l'agri-bashing. Alors évidemment, agri pour l'agriculture et bashing qui est un mot anglais qui veut dire dénigrer.
Mais dénigrer un mode d'agriculture peut aussi prendre la forme de vandalisme sur le matériel d'irrigation par exemple.
Des incendies d'élevage, des intrusions dans les élevages.
Alors il y a plusieurs formes d'agri-bashing en fait. Vous allez avoir le plus agressif, le plus dangereux, qui va être les intrusions sur les fermes, les vols d'animaux dans les fermes.
On ne peut pas demander à un agriculteur de produire à manger et de l'autre côté qu'on vienne lui taper dessus.
S'ils sont parfois victimes de dénigrement, les agriculteurs restent appréciés de la population. Selon un récent sondage de l'Institut Ipsos, 91% des Français ont une bonne opinion du monde agricole.
Il faut arrêter de toujours en rajouter sur les agriculteurs qui le vivent très très mal. Quoi.
Ils le vivent vraiment très mal. Et il y a la plus grosse crainte qu'on a aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais de reconnecter, mais c'est même que cette déconnexion qui est en cours depuis plusieurs années ne fasse que s'amplifier et qu'on s'enferme effectivement dans une logique d'agression. On a vraiment cette inquiétude de dire il faut pouvoir aborder les sujets qui, encore une fois, historiquement étaient connus des consommateurs parce que il y avait des abattoirs dans beaucoup de communes, il y avait de toute façon de l'élevage, et que, j'allais dire, même les gamins savaient que les animaux qu'on voyait, ils étaient faits pour être mangés, et qu'on était content après de les retrouver dans son assiette, et qu'on les appréciait autant à ce moment-là. Voilà, parce qu'on savait qu'ils avaient été élevés dans des bonnes conditions, on les avait côtoyés, on avait une relation aux produits qu'on consomme avec plaisir qui était très différente. Là, aujourd'hui, on a pratiquement l'impression qu'on veut jeter une sorte de voile pudique sur tout ça en disant on ne veut pas savoir. Et donc, dans les agressions, on a notamment ça autour de l'élevage, comme si c'était devenu quasiment... Les agriculteurs renvoient le fait de dire on nous traite de criminels, de pollueurs, etc.
Les agriculteurs passent donc pour les fossoyeurs de l'environnement, tout comme les fonctionnaires pour ceux des finances publiques. Finalement, dans un corps social en tension, sidéré par toutes les incertitudes et les injonctions qui le bombardent tous les jours, le réflexe est bien plus de chercher des coupables que des solutions. Résultat, des camps qui se polarisent, des militants qui se fanatisent et des transformations qui deviennent plus difficiles à conduire, tout simplement parce qu'il devient plus difficile de parler des choses comme elles sont, sans polémique ni procès d'intention. Et ce, alors même que les transformations deviennent urgentes et qu'on sait qu'elles seront complexes.
Il y a des choses à revoir sur les modèles de production. Ça demanderait de serrer, en fait, de dire quel type d'agriculture on veut pointer en disant ça, c'est pas acceptable. Quand on voit des fermes verticales pour élever des cochons en Asie du Sud-Est, sur je sais plus combien, une quinzaine d'étages, etc., là, on se dit ce modèle-là, c'est clair que ça, on sait, c'est pas bien. Un modèle qui n'abîmerait pas du tout l'environnement, a priori, ça n'existe pas, puisqu'on produit, par principe, quand on produit, on a un impact de toute façon. Donc comment on fait pour trouver jusqu'où c'est acceptable et quelle est aussi la voie de progrès qui continue à être faite par les agriculteurs ou par l'ensemble de la chaîne, bah, effectivement, c'est là que ça devient intéressant et il n'y aura jamais une réponse binaire en disant « ça, c'est pas bien, ça, c'est bien ».
Ok, comme toujours, il n'y a pas de réponse simple. Mais comment imaginer pour l'avenir un modèle agricole débarrassé de toutes ces externalités négatives actuelles ? La rémunération insuffisante des agriculteurs, les circuits mondiaux de commercialisation et de distribution à grands coûts d'énergie fossile, les rendements conditionnés à l'usage massif d'intrants chimiques, dont les conséquences pour la santé humaine et celle du vivant en général sont désastreuses, l'érosion des sols et leur appauvrissement à force de labour et de monoculture, etc. etc. Comment réussir à changer ce modèle dont tout le monde s'accorde sur les inconvénients ? Mais dont trop d'acteurs n'ont pas intérêt à sortir. Et comment valoriser le rôle positif que les agriculteurs pourraient jouer dans la transition vers un modèle plus vertueux ?
C'est clair que comme sur d'autres secteurs, on sent qu'il va falloir rémunérer davantage l'intérêt, on va dire, écosystémique du modèle agricole plus vertueux qu'un autre. Et en fait, je pense que la réponse, comme dans d'autres secteurs, elle est là. C'est-à-dire comment on fait pour garantir un revenu, voire augmenter un revenu, en tenant compte du rôle que jouent les agriculteurs pour améliorer l'environnement. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'agriculture, il y a aussi toute une question vraiment positive de captation de carbone. En clair, les secteurs entiers aujourd'hui, enfin des paysages entiers en France, où si on avait pu notamment d'élevage, on aurait des prairies qui seraient beaucoup moins en capacité de stocker du carbone.
What ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Florent ? Moi, je lis partout que l'élevage, c'est mal, car ça fait rôter et péter les vaches, ce qui produit du méthane qui est mauvais pour la planète. Bon. Je descends fouiller les archives. Et je découvre plusieurs études sur le sujet, dont une de l'INRAE, qui souligne l'apport des prairies et des haies pour séquestrer le carbone. À l'inverse, la déforestation, la mise en culture, l'intensification du travail du sol diminuent ce potentiel. Les prairies d'élevage peuvent ainsi stocker, dans les 30 premiers centimètres de sol, 70 tonnes de carbone organique par hectare, contre seulement 43 tonnes pour les terres arables. L'agriculture a donc un rôle à jouer pour limiter la présence de carbone dans l'air. Est-ce son seul intérêt du point de vue de la transition écologique ?
Un débat qui est assez vieux aussi, qui remonte à au moins une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, qui est la capacité à produire de l'énergie sur une ferme. Globalement, la valorisation de ce qu'on va appeler la biomasse, donc, qui est au départ des déchets, et qu'on peut évidemment valoriser de façon énergétique, donc par exemple par de la méthanisation. Et puis la capacité à produire via des panneaux photovoltaïques beaucoup d'énergie. Donc, historiquement, on avait des voisins qui étaient quasiment eux-mêmes agriculteurs, ou en tout cas qui avaient toujours connu beaucoup d'agriculteurs. Aujourd'hui, on a une cohabitation compliquée. Et dès qu'on arrive à des ouvrages un peu plus conséquents ou qui peuvent poser question, voire faire peur, l'installation d'un méthaniseur près de chez soi peut engendrer une difficulté. Sur la partie électricité directement, c'est-à-dire par les panneaux photovoltaïques, le nouveau débat, enfin il n'est pas non plus complètement nouveau, mais là aussi il a pris un coup d'accélérateur par le besoin de développer plus de souveraineté énergétique pour la France dans les années à venir, c'est celui de est-ce qu'on met aussi des panneaux sur les champs eux-mêmes et à quelles conditions est-ce qu'on a, et la réponse va vite être oui, mais est-ce qu'on doit arbitrer entre la production agricole et la production d'énergie. Avoir un complément de revenu ou une assurance revenu, si je puis dire, par la production d'énergie est plutôt intéressante, y compris d'ailleurs en commençant par autoproduire une partie de ses besoins pour un éleveur, par exemple, qui va pouvoir alimenter sa salle de traite avec une énergie autoproduite. Très vite, on se dit oui, pourquoi pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde agricole est souvent des marchés, et ça, encore une fois, depuis, ça fait 20 ou 30 ans à peu près que ce secteur des énergies renouvelables est en développement important, des démarches, on va dire, un peu commerciales, sur lesquelles ils ne sont pas toujours, en accompagnement des agriculteurs, on n'est pas non plus très très clair, pour trouver la bonne ligne de facture, finalement, entre ce qui est intéressant et ce qui, finalement, va mettre l'agriculteur dans une situation de devenir un producteur d'énergie, ce qui n'est pas tout à fait son majoritaire, je veux dire, par rapport à sa production agricole, ce qui n'est pas tout à fait, évidemment, le modèle que l'on souhaite.
Ah non, c'est sûr que l'objectif n'est pas de diminuer la production agricole pour la remplacer par de la production d'énergie. Mais pour que ça ne devienne pas très tentant pour les exploitants agricoles, il faut absolument revoir le modèle qui actuellement ne les rémunère pas suffisamment pour leur production. Alors Florent, quelles sont les pistes à l'étude ?
Alors, le point de départ, c'est de dire qu'on a une volonté de développer un modèle agricole qui a moins d'impact négatif sur l'environnement. Il y a une volonté partagée, je pense vraiment de... Alors, je suis sûr qu'elle est partagée par l'État et le monde agricole. Okay. On l'a déjà beaucoup évoqué, le troisième acteur clé, ça va être celui du consommateur.
C'est le consommateur qui a le pouvoir. C'est son acte d'achat qui définira l'agriculture.
De plus en plus, les Français veulent respecter l'environnement, y compris en faisant leurs courses.
Le consommateur, c'est un consommateur qui veut aussi être acteur. Comprenez, faire usage de son pouvoir d'achat pour défendre ses valeurs et les causes qu'il défend. Manière aussi de lutter contre les déviances de la société de consommation. Voilà la consommation.
Résultat, quand les Français font leurs achats, 53% veulent des produits éthiques ou moins polluants et 60% veulent des produits naturels pour être en bonne santé.
S'il veut une agriculture dynamique avec de l'élevage, des prairies, des haies, tout ça, bah, elle existera. S'il veut une nourriture qui est sous une forme de 3D avec du GAFA et ainsi de suite, lyophilisé ou quoi, bah, c'est lui qui décidera. Nous, on n'a pas le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est le consommateur.
Oui, les distributeurs savent le pouvoir des consommateurs. Les consommateurs, eux, ne le savent pas. Mais vous, maintenant, vous savez.
Une fois qu'on a le consommateur, est-ce qu'on a la grande distribution ou est-ce qu'on arrive à... Bon, voilà, ça va être un vrai sujet parce que forcément, tous les acteurs, après, sont concernés. Mais restons pour l'instant aux trois acteurs clés du système, pour moi, qui sont les agriculteurs et les consommateurs. Et puis, bien sûr, le rôle de l'État derrière tout ça, parce que l'État, au sens très large, ça peut être l'Europe, ça peut être... Enfin, en tout cas, la puissance publique qui doit pouvoir aider à tout ça. Donc, il y a une volonté de dire, de toute façon, on n'a pas le choix. Comment on peut moins impacter l'environnement par l'activité agricole, voire même, dans certains cas, comment on peut lui faire jouer un rôle vertueux. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut dégager des revenus. Pour dégager des revenus, on a deux solutions, comme d'habitude, soit là aussi une intervention de la puissance publique, c'est déjà le cas aujourd'hui, on a un certain nombre d'aides versées au niveau européen sur la politique agricole commune notamment, ou d'aides des agences de l'eau, qui sont indexées sur le fait que la pratique agricole va moins impacter l'environnement, voire encore une fois le reconstituer. La nouvelle politique agricole commune en place depuis le 1er janvier 2023, là va encore un peu plus loin, donc de PAC en PAC, qui est une durée de 7 ans, il y a cette évolution, alors que certains trouvent trop lente, mais en tout cas, elle a lieu, indéniablement. Donc ça, c'est le premier point, les aides publiques, et puis le deuxième point, c'est le marché. Ouais. Donc, comment le marché peut aller dans le même sens que les aides publiques, ce qui est un monde idéal. C'est plutôt le cas, je trouve, globalement, si on prend l'exemple de l'agriculture biologique, on voit bien qu'il y a un soutien depuis au moins une vingtaine d'années au développement de l'agriculture biologique par des aides publiques. Et dans le même temps, on a un marché qui s'est constitué, même si depuis un an, il est en difficulté. Mais on ne va pas confondre une crise qui n'est pas forcément structurelle et qui est liée notamment à des problèmes d'inflation alimentaire qui ont lieu depuis effectivement un an. Aujourd'hui, si on prend le critère du bio, alors sur beaucoup de points, il y a évidemment, c'est le modèle le plus abouti, on va dire, de ce qu'on appelle l'agroécologie. Mais ça veut dire que, encore une fois, il ne faut pas s'interdire d'autres modèles qui ne seraient pas tout à fait au niveau du bio et qui seraient intéressants aussi. Parce qu'en fait, ce que j'avais pu analyser quand je m'occupais de l'agriculture biologique, c'est qu'historiquement, au moins jusqu'à il y a 10 ans, la plupart des agriculteurs labellisés en bio avaient précédemment, à l'obtention du label, déjà un comportement très intéressant.
Ça, tu me l'avais dit,
Donc c'est vrai que c'est bien de labelliser parce que ça permet aux consommateurs qui achètent moins d'être aussi rassurés, mais ça veut dire que le vrai sujet, c'est d'arriver à faire approcher même d'un modèle bio des agriculteurs des agricultures qui en étaient plutôt éloignées au départ. Ça serait ça l'objectif, ça. Y compris d'ailleurs hors de nos frontières. Donc il ne faut pas toujours regarder l'importation comme étant une espèce d'horreur absolue, et c'est intéressant aussi que les produits faits à l'autre bout du monde, puisqu'on est sur la même planète, de toute façon, soient aussi dans une agriculture la plus vertueuse possible.
Ça tombe sous le sens. Mais pour cela, il faudrait une convergence internationale des réglementations agricoles, qui ne me paraît pas forcément d'actualité. Restons donc en France pour le moment. Peut-on se représenter à quoi ressemblerait un modèle agroécologique ? Ça tombe bien, il y a une autre étude de l'INRAE sur le sujet.
Ça donne quoi un modèle bio majoritaire ? Ils ne sont pas imaginés 100%, mais déjà majoritaire, ça veut dire plus de 50%. Est-ce que, par exemple, on continue à être capable de boucler ce qu'on appelle les cycles de l'azote et du phosphore. Donc, en gros, est-ce qu'on est capable agronomiquement de faire en sorte que les productions animales permettront de faire de l'engrais pour les productions végétales et que tout ça va bien se passer et qu'on va arriver à un équilibre et qu'on va pas se retrouver à un rendement agronomique qui va chuter. On sait déjà que quand on est en bio, on a un rendement qui est plus faible puisqu'on n'utilise pas les engrais chimiques de synthèse qui n'ont pas été inventés pour rien, hein, qui ont une capacité à produire davantage sur la même surface et donc, encore une fois, à rejoindre ce qu'on disait au début sur une alimentation plutôt de qualité mais moins chère. Donc tout ça était intéressant. Donc si on détricote, il faut être sûr qu'on sait toujours bien faire in fine.
Oui, ça c'est important. On oublie trop souvent que la production agricole animale et la production végétale sont liées, fonctionnent ensemble, les déchets ou rejets de l'une permettant la fertilisation ou l'alimentation de l'autre. Si on arrêtait toute production animale, on serait sans doute obligé de compenser par plus d'engrais chimiques. Il y a donc un équilibre à trouver et les consommateurs ont évidemment un rôle à jouer dans tout ça.
Concrètement, est-ce que demain, un produit qui aurait l'air un peu moins exceptionnel, c'est d'ailleurs peut-être aussi une partie de l'explication du marché bio qui est en une période difficile, il y a évidemment l'inflation, mais il y a peut-être aussi le fait que tout d'un coup, c'est moins attrayant parce que finalement, le produit devient plus classique. Et donc, est-ce qu'il ne perd pas ses vertus d'un produit un peu phare ? Enfin, c'est les deux sujets, je pense, qui sont importants. C'est d'une part, est-ce qu'agronomiquement, ça tient la route ? Et après, est-ce qu'économiquement, ça tient la route ? En fait, hein, ça revient à ça. Donc, si on résout ces deux sujets-là, on va continuer à y aller. Mais de toute façon, on est sur une démarche, l'horizon 2030 en Europe, c'est 28% de surface en bio. On approche du modèle majoritaire.
Un modèle bio majoritaire à horizon 2050 ? Voilà une perspective séduisante. Mais j'ai comme l'intuition qu'il y a un paquet d'obstacles à surmonter pour y arriver, non ?
Alors ça dépend des filières. C'est à la fois des obstacles liés à probablement à une spécialisation territoriale, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des cultures aujourd'hui où c'est compliqué de produire en bio parce que on n'a pas justement la capacité à boucler les cycles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire même à l'échelle d'un territoire, à pouvoir se dire que les engrais issus des élevages vont permettre d'alimenter les cultures à côté, etc. On a trop spécialisé les territoires. D'accord. En fait, on est sorti de ce qu'on appelait la polyculture élevage, hein, qui était le modèle assez historique de toute l'agriculture. Donc ça, c'est un premier obstacle, mais qui n'en est pas un à long terme, mais qui est à un court terme, une difficulté. Et puis après, encore une fois, il y a la question du marché. Puis surtout, il faut des consommateurs, de toute façon, alors qu'ils acceptent éventuellement de payer plus cher. Et après, il y a aussi eu, de fait, jusqu'à maintenant, une propension à un certain nombre de transformateurs, voire de distributeurs, à se dire que des produits plutôt haut de gamme, on peut continuer à mettre des marges plus importantes.
Tiens donc, on n'a pas beaucoup évoqué les transformateurs et les distributeurs depuis le début de l'audition. Or, ce sont des suspects de premier plan. Pour séduire le consommateur, ils jouent la carte des prix bas, mais se rémunèrent sur l'écart entre le prix qu'ils payent au producteur et celui auquel ils vendent. Et comme le producteur est dépendant de ses acteurs pour écouler sa production, eh bien il est coincé. Il ne peut pas monter ses prix.
Même si l'écart ne devait être que de 10-15%, ce qu'on voit aujourd'hui sur les produits qui sont devenus très forts, comme le lait ou les œufs, donc ça devient un produit classique finalement, donc il y a quasiment plus d'écart de prix, mais le risque à un moment donné, c'est que ça, ce petit écart-là, le consommateur se dise « mais finalement, pourquoi je continue à le payer ?» Parce que j'imagine bien que toute la filière a dû être tirée vers le haut et que finalement, à côté, il y a des œufs plein air, ils ont l'air bien aussi, enfin, etc. Donc, c'est pas si simple. Il faut quand même garder l'idée qu'il faut qu'il y ait une appétence vers des produits. En clair, le marché bio aujourd'hui est en train de se segmenter. Et moi, je dis toujours que c'est une bonne nouvelle. Par exemple, aujourd'hui, on sait que pour moi, ce qui va tracter vraiment les choses, ça sera du bio local, encore plus qu'aujourd'hui, quoi. Pouvoir garantir que oui, tout est bien fabriqué dans la région, que vous pouvez rencontrer l'agriculteur, etc.
Voilà donc la panacée. Des produits agricoles bio pour que leur production impacte un minimum l'environnement et locaux pour qu'ils aient parcouru un minimum de kilomètres avant d'atterrir dans notre assiette. Mais comment évaluer leur juste prix ? Comment établir le coût réel de ce qu'on mange ?
J'assistais encore il y a très peu de temps à une conférence de Nicolas Bricasse, là, qui est chercheur à Montpellier sur la chaire UNESCO, la chaire alimentation UNESCO, et qui refaisait une démonstration, en prenant la littérature récente, du coût réel d'un produit alimentaire, notamment ceux qui sont les plus à bas coût, sur la santé, sur l'environnement, tout ce que la société paye quand même finalement. Oui. Et on est quasiment du simple au double, entre le produit qu'on paye au départ et le prix et le coût réel pour la société.
Hélas, oui. Le coût caché des produits alimentaires à bas prix est énorme. Pour avoir des prix bas, il faut produire beaucoup. Pour produire beaucoup, il faut doper les cultures de façon chimique, artificialiser les productions, sous-payer ceux qui récoltent. Et il faut aussi doper la demande, à coup d'exhausteurs de goût, de sel, de sucre ajouté, de produits de synthèse encore moins coûteux à fournir que les produits bruts d'une agriculture pourtant industrialisée. Et je ne vous parle même pas du marketing et de la publicité. Résultat, des conséquences catastrophiques en matière de santé publique. obésité, maladies cardiovasculaires, cancer. Un peu comme avec les avions, le prix de l'alimentation ne reflète absolument pas toutes les externalités négatives que la société entière finit par payer, indirectement. Et, un peu comme dans le secteur des transports, certains acteurs de la chaîne n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Alors, l'agroécologie peut-elle vraiment susciter l'adhésion ?
C'est difficile, évidemment, parce que dans la chaîne agroalimentaire, il y a plein d'acteurs avec des motivations très différentes. Mais globalement, je pense que leur driver numéro un, ça reste quand même le marché. De toute façon, dès qu'on est sur aujourd'hui une culture qui utilise beaucoup de pesticides, ça veut dire qu'on a fait un modèle d'intensification et de densification dans les champs en particulier, sur la betterave, ça peut être vrai sur... j'avais beaucoup travaillé moi sur les bananes bio, par exemple, et c'est vrai qu'il y a certaines bananeraies où de toute façon, c'est pas possible. Il faut complètement revoir le modèle, fabriquer vraiment beaucoup moins de volume. Ouais. Et sur un produit basique comme le sucre, c'est compliqué parce que de fait, valoriser le fait que... Alors si c'est le morceau de sucre qu'on va mettre dans son café, on peut valoriser le fait que c'est du bio et qui plus est du bio français. Ça, je pense que tout le monde avait compris que ça pouvait marcher. Mais la plupart du sucre n'est pas du tout utilisé comme ça. Il est utilisé dans une fabrication industrielle derrière où le consommateur final, il va évidemment pas aller regarder si les quelques pourcents de sucre qu'il y a dans le produit ont été faits dans des conditions de qualité. Donc comment on a un marché derrière en disant, encore une fois, l'ensemble de la pâtisserie demain, y compris ce qu'on appelle industriel, j'aime pas trop le trouver parce qu'il n'y a pas trop de frontières entre les deux, mais voilà, et faite de sucre bio français, métropolitain, on va dire, donc à partir de betterave, ça serait vraiment intéressant. Quand tu disais, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Le problème, il est souvent pas celui-là. Alors, il se produit pas dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, donc je suis pas sûr de moi, mais enfin, dans beaucoup de filières. Mais il est souvent, est-ce qu'on peut passer du micro-test de ça fonctionne? On a démontré qu'agronomiquement, on savait faire. À l'étape d'après, c'est-à-dire être capable de répondre à 10-15% du marché. Mmh. Parce qu'il faut toute une chaîne derrière de stockage, de transformation. Et ça, quand on ne l'a fait qu'au début, c'est là qu'on a les surcoûts démentiels du bio ou d'autres productions. C'est qu'on est obligé de refaire toute une chaîne logistique dédiée, quoi. Enfin, logistique, transformation, etc. Donc, l'enjeu a longtemps été de dire avec un, le fait que de se dire est-ce que les consommateurs vont nous suivre, mais de dire on est capable d'utiliser les mêmes outils pour faire du bio et du non-bio.
Tout le problème d'une transition est là, dans la transformation de la chaîne de valeur. C'est très concret. Quelle méthode de culture, quelle rotation, mais aussi quelle machine pour transformer, quel circuit pour distribuer, quelle sécurité en cas d'imprévu majeur, comme des phénomènes climatiques extrêmes ou des conflits mondiaux qui ferment une partie des marchés. Comment accompagner les acteurs dans cette transition? On revient à ce que m'avait dit Karim Megherbi dans l'épisode 10 à propos des actifs échoués dans l'énergie. Pour un agriculteur qui s'est endetté jusqu'au cou à moderniser son exploitation dans une logique industrielle, changer de modèle peut se révéler très douloureux. Mais au-delà de ces enjeux, je me demande aussi si la transition ne fait pas peser un risque sur notre sécurité alimentaire.
Ça, j'y crois pas. Ça a souvent été un argument qu'on entend un peu comme une sorte de menace. Moi, je pense que les accidents alimentaires existent en bio et en non-bio, et l'idée de dire un certain nombre de traitements chimiques qui effectivement pour je pense notamment des traitements post-récolte à un certain nombre d'opérations sont une sécurité et si on l'enlève on met en risque l'alimentation, c'est méconnaître vraiment ou être de mauvaise foi le système. On peut avoir effectivement des risques sanitaires, on en a eu sur des produits non bio, on en a eu sur des produits bio. Je pense qu'il ne faut pas confondre les deux exercices, on est capable de produire mais pas avec les mêmes objectifs. Donc encore une fois, si on veut faire des chaînes longues et garder des produits très longtemps, c'est sûr que les méthodes qui ont été inventées pour qu'un fruit ait l'air d'avoir la même forme et la même apparence dans un rayon de supermarché pendant une semaine, ça c'est pas faisable en bio, c'est clair. Donc ça veut dire réinverser le sujet, encore une fois, dire c'est quoi les produits disponibles aujourd'hui autour de chez nous. Alors c'est sûr qu'il y a des régions en France où il y a moins de diversité dans certaines saisons, il y a moins de produits, c'est plus on descend dans le sud, plus on a effectivement... très tôt des produits, des fruits et légumes par exemple, etc. Mais en même temps, c'est intéressant de toute façon de se reconnecter avec son territoire. Mais ça suppose une pédagogie importante. Donc c'est vraiment associer beaucoup les consommateurs au fait de dire est-ce qu'il n'y a pas un certain plaisir à cette question-là. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, y compris sur les questions environnementales. La question du gaspillage, elle est très centrale. Elle est très centrale. Et on sait qu'en France, en tout cas, comme dans beaucoup de pays développés, c'est beaucoup le sujet du consommateur final. C'est lié sans doute à ce que tu disais sur une alimentation pas chère. Ce qui dit pas cher, dit pas forcément, on n'y fait pas beaucoup d'attention. Si on jette un truc qui n'a pas coûté grand-chose, on a moins de scrupules que si on avait acheté. On ne va pas jeter le contenu d'une bouteille de vin qu'on a payé 15 euros. Ça, je pense que personne ne le fait. Par contre, c'est vrai que si on a un produit, on a acheté des bouteilles dont le quatrième paquet était gratuit, c'est peut-être pas très grave si à un moment donné, il n'y a plus personne n'en veut et qu'on le met à la poubelle. Quoi.
Alors là, je trouve quand même Florent bien optimiste. Car si on se retrouvait dans une situation qui cumule, au hasard, sécheresse grave, flambée des prix de l'énergie et maladie de certaines plantes, voire grippe aviaire, je pense qu'on serait mal. Et que c'est très plausible. Alors comment se préparer à de tels scénarios ?
C'est vrai qu'il faut anticiper, et notamment en termes de production, parce que on a admis maintenant à peu près, alors après c'est toujours pratique, mais ça va pas jusqu'au bout, mais quand même de dire 1,5 degré, c'est après 800 km de remontée vers le nord, quoi, en gros. Donc effectivement, le climat aujourd'hui, aujourd'hui à Séville, c'est le climat de Toulouse demain, bon, sachant que le climat de Toulouse vécu l'été 2022 et qui s'annonce malheureusement sur 2023, c'est déjà quasiment impossible de produire. Et de toute façon, tout est sec. C'est pas une question on n'y irrigue pas, il n'y a plus d'eau et c'est très très compliqué. Donc on essaye au moins déjà d'accompagner une mobilisation des ressources existantes, du fait de travailler déjà avec pour faire poursuivre les productions actuelles tout en essayant de transformer les productions. Et cette transformation de production, oui, elle peut être faite à un horizon de 2050, parce que ça c'est appréhendable, mais il faut s'y prendre tout de suite. En ce moment, on a des agriculteurs dans les Pyrénées-Orientales qui travaillent par exemple sur beaucoup plus d'agrumes. Il va falloir aller là-dessus. Sur les vins, qui sont quand même importants dans toute la France, c'est pareil. On travaille sur des cépages qui sont beaucoup plus adaptés au changement climatique, et oui, qui sont d'ailleurs des cépages qu'on va chercher pour certains d'entre eux en Grèce, etc. La logistique qu'on évoquait tout à l'heure fait que on peut pas directement dire les zones qui vont être les plus arides demain vont être invivables en faisant une espèce de référence historique à des zones qui ont été désertées par l'humanité à une époque parce qu'on ne pouvait pas y faire cultiver des choses. C'est clair que c'est plus comme ça. Donc on sait qu'on est capable de produire beaucoup plus que le besoin de l'humanité aujourd'hui. Je ne sais pas dire ce qu'il en sera réellement en 2050 et en 2100, mais en tout cas, faut, je pense, s'enlever de la tête de dire ça va être directement ces zones-là vont être invivables. Malheureusement non, si je puis dire, au sens où ça veut dire qu'on va être capable de continuer à dégrader le climat parce qu'on va adapter, par exemple, si on sort de l'agriculture deux secondes, mais sur simplement notre façon de vivre, on va continuer à climatiser de plus en plus d'endroits sur la surface de la Terre. Donc sur l'agriculture, on est bien effectivement à cette fourche-là, comme sur le reste de notre comportement d'être humain, c'est soit de dire on va effectivement adapter les productions et donc la consommation à des produits qui sont capables de résister à ce manque d'eau.
Adapter les productions agricoles au climat qui change et s'adapter à une nouvelle offre alimentaire. Et j'ai comme l'intuition que ça ne va être simple, ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs.
Après, on est forcément dans un monde de résistance. Enfin, je veux dire, c'est compliqué parce qu'en bout de chaîne, on les a évoqués beaucoup, mais évidemment, il y a les agriculteurs et les agricultrices qui peuvent pas eux-mêmes, de leur propre chef, décider que demain ils vont produire autre chose ou demain, et voire au sens premier du terme demain, pratiquement l'année suivante, changer ce qu'on appelle l'assolement. Là, on le voit dans une région qui a été très touchée par une sécheresse vraiment phénoménale en 2022. Qui avait des effets un tout petit peu atténués parce que 2021 avait été plutôt arrosé. Là, on sait maintenant c'est quasi inévitable, on est mi-février, qu'on coupera pas un 2023 qui sera pire que 2022. Pour autant, beaucoup d'agriculteurs ne peuvent pas décider de leur propre chef qui vont changer de culture. Parce que, encore une fois, quel débouché derrière, quel marché. Donc, quelque part, on en vient presque à prier et puis à dire, peut-être que finalement, ça sera moins pire. S'il se met à pleuvoir au mois de mars, ça passera peut-être. On veut pas non plus arriver à une situation de changement radical, de dire, effectivement, du jour au lendemain, l'État reprend la main et dit, vous allez me mettre telle culture, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut effectivement accompagner le monde agricole vers ces transitions, mais qui sont maintenant sur des temps beaucoup plus courts. C'est sûr que le rythme ne peut plus être celui qu'on fait depuis quelques années, qui était déjà intéressant, très clairement. L'évolution de l'agriculture, elle a été très forte depuis des années. Malheureusement, ce que je dis souvent aux agriculteurs, c'est que par rapport à tous les efforts que vous avez faits, il va falloir faire les mêmes, mais deux ou trois fois plus vite, quoi. On a la chance d'être dans une politique publique, si je puis dire, qui est très très importante en termes de volume. Je rappelle quand même que la politique agricole commune pour l'État membre France, c'est 9 milliards d'euros par an, donc on est quand même capable de faire des choses. On veut éviter ce qui se passe aux Pays-Bas là, depuis un an à peu près. On est quasiment dans un plan social de l'agriculture, quoi. Il faut faire en sorte que, oui, une agriculture qui abîme moins, voire même aide à encaisser le changement climatique en faisant de la captation carbone, soit valorisée.
Comment l'agriculture du XXIe siècle peut-elle à la fois nourrir suffisamment, diminuer drastiquement son empreinte carbone, augmenter sa contribution positive à la régénération de l'environnement, tout en assurant une rémunération juste aux agriculteurs et un prix bas aux consommateurs? Entre nous, ça me paraît impossible. Il va falloir renoncer à au moins l'un des critères, et comme celui du climat n'est pas négociable, pas plus que celui de notre autosuffisance alimentaire, les marges sont sacrément réduites. Pour ce secteur comme pour d'autres, il va être indispensable d'expliquer les conséquences des changements à l'œuvre et de renégocier la répartition des coûts et des bénéfices entre les acteurs. Sinon, il ne restera guère que deux options. L'accélération d'une trajectoire qui nous mène tout droit à plus 4 degrés en France en 2050 ou la reprise en main autoritaire par l'État de la production alimentaire. Bon, je vais essayer d'aller à la rencontre de ceux qui tentent de jouer la carte de l'agroécologie.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquetedavenir.com.